Radio Grand Ciel vous présente aujourd'hui la 11e émission de Demain, les énergies. Toujours réalisée au téléphone, avec au micro Paolo Davi et à l'autre bout du fil, Marc Blaiseau. Bonjour Marc.
Bonjour Paolo, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors Marc, nous avons des nouvelles surprenantes ces mois-ci pour notre rubrique Quoi de neuf. La première est celle citée par l'omniprésente agence d'information sur l'énergie américaine, le fameux EIA, c'est-à-dire EIA en anglais, qui nous donne des informations sur les importations de gaz de schiste en provenance des États-Unis. Eh bien, on y découvre, grande surprise, que la France est le premier importateur européen et, en plus, le deuxième au niveau mondial, précédé de très peu par la Corée du Sud. Étonnant, n'est-ce pas, Marc ?
Oui, Paolo, en effet, c'est complètement surprenant de savoir que le Parlement français a, en 2011, c'est ce qu'on appelle la loi Jacob, approuvé une loi qui interdit en France l'exploration et l'exploitation des huiles et gaz de schiste par les forages dont on a parlé, qui utilisent la technique de fracturation hydraulique de la roche réservoir, en application en particulier du principe de précaution. L'article 5 de la Charte de l'environnement. Mais par contre, il n'est pas interdit d'importer ce gaz. C'est 30 millions de pieds cubes en mars dernier. Alors, c'est une belle hypocrisie, à mon avis, cette loi.
Eh oui, Marc. C'est dommage pour la France de ne pas pouvoir utiliser cette ressource. Mais bon, pour être positif, il vaut mieux brûler du gaz, de schiste, que du charbon.
Tout à fait.
L'autre nouvelle, Marc, concerne les éoliennes, dont tout le monde parle en ce moment, et notamment du démarrage de la première installation française d'éoliennes offshore.
Oui, qui est vivement contestée par les pêcheurs qui voient une menace pour leur activité. Donc c'est le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, qui va être érigé à environ 15 km de la côte, une capacité totale de 496 MW, 62 éoliennes, 160 mètres de haut, les pylônes, et censé produire 1820 gigawattheures par an, l'équivalent, selon Elmarine, qui est l'opérateur du site, de la consommation électrique annuelle de près d'un million d'habitants.
Ouais,
donc sa mise en service est prévue pour 2023.
Oui, non négligeable. Mais manifestement, Marc, il est très difficile de faire accepter l'évolution et les mix énergétiques qui sont indispensables et nécessaires pour baisser les niveaux des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là, malgré des efforts certains d'information et d'échange avant les différentes phases du projet. Il faudra sans doute améliorer ce type de communication et d'échange avec les différentes parties impliquées, directement ou indirectement, dans les projets. Bon, dans notre dernière émission, nous avons parlé des énergies renouvelables intermittentes, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Nous allons aujourd'hui vous parler d'une source d'énergie renouvelable très importante qui en plus est continue, c'est-à-dire qu'elle fournit de l'énergie 24 heures sur 24, qu'il fasse nuit ou que le vent soit inexistant. Il s'agit bien sûr de l'énergie hydraulique. Bon Marc, nous savons que l'énergie hydroélectrique ou l'hydroélectricité est une énergie renouvelable qui est issue de la conversion de l'énergie hydraulique en électricité. L'énergie cinétique du mouvement de l'eau, générée par la gravité, par des différences de hauteur, est transformée en énergie mécanique par une turbine hydraulique, puis en énergie électrique par un générateur électrique synchrone ou turbo-alternateur. L'hydroélectricité est la première source d'énergie renouvelable et la troisième source, toutes filières confondues, de production d'électricité au monde. Sa place est à environ 16% de l'énergie totale. Quelle est, en fait, Marc, l'importance de cette source d'énergie dans le monde et en France ?
En 2019, Paolo, au niveau mondial, la puissance installée de toutes les centrales hydroélectriques atteint 1308 gigawatts, produisant environ 4306 térawattheures par an, soit 70% de la production mondiale d'énergie renouvelable, et 15 à 16% de la production mondiale d'électricité en 2019. Alors les principaux producteurs d'hydroélectricité en 2019 sont la Chine, c'est 30%, le Canada et le Brésil, un peu moins de 10% chacun, puis les États-Unis entre 6 et 7. Et c'est les pays dont, bien sûr, il y a les centrales figurent parmi les plus puissantes.
Et en France, Marc, je crois que la France est un grand producteur d'énergie hydroélectrique avec, je crois, la Norvège.
En France, Paolo, l'hydroélectricité est exploitée depuis la fin du 19e siècle. On l'appelait, c'est un joli nom, je trouve, houille blanche.
Ouais.
Parce que ça marquait bien son caractère d'énergie majeure, importante. et sa qualité écologique de production aussi. Ce qui en fait finalement la plus ancienne des énergies produites en France grâce à une ressource nationale. Aujourd'hui, il y a plus de 2300 installations électriques, hydroélectriques. EDF exploite 640 barrages, dont 150 d'une hauteur supérieure à 20 mètres. Alors l'hydroélectricité est la première source d'électricité renouvelable en France et la deuxième source d'électricité française, derrière le nucléaire bien sûr. Elle couvre environ 11 à 12% de l'électricité consommée chaque année. Ah ouais. Alors, si on prend les chiffres de 2020, l'hydroélectricité comptait un parc installé de 25 gigawatts et une production électrique de près de 60 ou 61 TWh. Cette année 2020 est d'ailleurs une année excellente pour la production hydraulique renouvelable. Elle est en augmentation de 10% en 2020 par rapport à 2019.
Ah ouais, tant mieux. Et nos auditeurs sont peut-être intéressés aussi de savoir quelles sont les régions de production hydroélectrique en France.
Oui, alors bien sûr, ce sont les régions plutôt montagneuses et avec des grands fleuves. Alors la première d'entre elles, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. C'est 46% de la puissance installée en France, près de la moitié. C'est près de 12 gigawatts. Puis après, il y a la grande région Occitanie, avec 21% de la puissance installée française, plus de 5000 mégawatts. Et puis la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, supérieure à 12% de la puissance installée en France, donc plus de 3 gigawatts.
Oui Marc, c'est vrai que l'énergie hydroélectrique est une des plus anciennes énergies renouvelables utilisées depuis la révolution industrielle. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette source Marc?
Alors les grands atouts de l'hydroélectricité, c'est son caractère renouvelable, son faible coût d'exploitation, hein, une fois que le barrage est fait, ses très faibles émissions de gaz à effet de serre, et puis son caractère pilotable, la capacité de stockage de ses réservoirs, contribue en particulier à compenser les variations de la demande ainsi que celles de production des énergies intermittentes comme le solaire ou l'éolien. Elle a toutefois des impacts sociaux environnementaux, particulièrement quand on implante les barrages dans les régions non montagneuses où il y a plus de population, donc on est obligé de déplacer les populations. Ouais. On élimine un peu par inondation des terres cultivables, arables. Ouais. Et puis un peu de la fragmentation, la modification des écosystèmes des rivières aquatiques et même terrestres, des bords de rivières. Ouais. Et le blocage des alluvions, des sédiments, qui est assez important.
Ouais. En fait, tout système a un impact, qu'on le veuille ou non.
Clairement.
Oui. Oui. Bien Marc, mais revenons sur les aspects techniques, avec quelques détails en plus de ce que nous venons de dire à propos de comment on produit l'énergie hydroélectrique.
Oui, alors comme tu l'as bien dit, l'énergie électrique est produite par la transformation de l'énergie cinétique de l'eau, hein, qui bouge, en énergie électrique par l'intermédiaire d'une turbine hydraulique couplée à un générateur électrique. On parle, comme tu l'as dit aussi, de turbo-alternateur. Pour les barrages, par accumulation, la quantité d'énergie disponible sur une période donnée dépend du volume du barrage, donc les apports et les pertes naturelles sur la période, et puis de la hauteur de chute. Pour les barrages au fil de l'eau, alors là, la quantité d'énergie produite, elle est en fait directement liée au débit, puisqu'il n'y a pas de hauteur de chute.
Oui. Compte tenu de ce que tu viens de dire, Marc, toutes les centrales hydrauliques ne fonctionnent donc pas tout à fait de la même façon. La puissance d'une installation électrique est donc proportionnelle au débit et à la hauteur de la chute d'eau. Il existe donc plusieurs types de turbines qui font tourner les générateurs électriques, adaptés aux différentes conditions. Sans aller trop dans les détails, il y a des turbines adaptées aux hautes ou moyennes chutes, entre 1800 et 50 mètres, par exemple, et ce sont les turbines Pelton ou Francis, et celles adaptées à des basses chutes, de 1 à 50 mètres. Et là, il y a les turbines à bulbe, ou ce qu'on appelle les turbines de type Kaplan. Donc, Marc, l'eau, qui est la source d'énergie hydroélectrique, est stockable. La production d'électricité peut donc être stockée pendant les heures creuses. Elle peut être utilisée en pointe, c'est-à-dire quand la demande est plus forte sur les réseaux publics. Et elle peut aussi être stockée pendant le week-end pour être turbinée, comme on dit, en semaine. Ou encore stockée au printemps pendant la fonte des neiges pour être turbinée en hiver. L'hydroélectricité est donc la source idéale pour assurer la continuité lorsque les sources intermittentes, comme l'éolien ou le soleil, sont à l'arrêt, n'est-ce pas, Marc?
Tout à fait, Paolo. Et la production d'électricité, son inconvénient, si on peut dire, c'est qu'elle est limitée par le débit et les réserves d'eau disponibles. Ces réserves, elles dépendent du climat des pompages réalisés en amont des retenues par d'autres utilisateurs, par exemple l'irrigation, hein, et la taille des retenues d'eau, hein, les lacs derrière les barrages. Mais l'énergie hydroélectrique est, grâce à sa souplesse, ce que je disais, pilotable, elle est mobilisable en quelques minutes. Ouais. Donc c'est une variable d'ajustement formidable, indispensable, car l'énergie électrique se stocke pratiquement pas ou très difficilement en quantité importante. Alors, il y a quelques batteries, mais ça n'a rien à voir comme puissance. Ouais. Du coup, d'ailleurs, de plus en plus de barrages dans le monde entier sont équipés de systèmes de remontée d'eau. Mmh. Alors ça s'appelle des systèmes STEP en français. C'est pour station de transfert d'énergie par pompage. Mmh. Alors ces barrages-là ou ces systèmes-là, ils ne comprennent plus un seul réservoir, un seul lac, mais deux réservoirs. Mmh. Quand l'énergie électrique solaire ou éolienne, par exemple, est abondante, on fait remonter l'eau du réservoir inférieur vers le réservoir supérieur. Et quand on a besoin d'électricité, ben, on utilise le barrage comme d'habitude, on fait descendre l'eau du réservoir supérieur vers le réservoir inférieur à travers le turbo-alternateur.
Voilà.
C'est une belle complémentarité entre énergie renouvelable, n'est-ce pas?
Ah oui, tout à fait. Effectivement, c'est un excellent moyen de stocker l'énergie. Dans les chapitres des énergies hydrauliques, il ne faut quand même pas oublier l'exploitation des marais, qui, contrairement à l'hydroélectricité classique, n'est pas continue. Mais c'est une source intermittente, bien que l'intermittence n'est pas aléatoire, mais parfaitement prévisible. La centrale de la Rance, en Bretagne, a été la première centrale marémotrice au monde, et longtemps, elle a été la plus puissante, avec une capacité installée de 240 MW. L'énergie marémotrice consiste à exploiter l'énergie issue des marais, dans les zones littorales à fort marnage, qui est le paramètre qui mesure la différence entre la hauteur de l'eau, entre la marée haute et la marée basse, qui se succèdent. Mais Marc, nous pouvons d'abord expliquer à nos auditeurs les phénomènes des marais.
Oui, on peut commencer par là, effectivement. Ce phénomène est induit par l'effet gravitationnel sur l'océan, hein, sur la masse d'eau liquide, de deux astres à proximité, disons, de notre planète, la Lune et le Soleil. Le rythme semi-diurne, hein, que tous les marins pêcheurs connaissent bien, deux marées par jour, de ce phénomène provient de la rotation de la Terre sur elle-même. L'alternance entre grandes marées et petites marées, on dit de mortes eaux, provient quant à elle des positions relatives de la Lune et du Soleil au cours du mois lunaire. Mmh. La Lune, moins massive, mais elle est beaucoup plus proche que le Soleil, produit en fait l'effet le plus important sur ces marées océaniques terrestres. Mmh. Tous ces mouvements astraux peuvent être calculés sur des milliers d'années à l'avance. Ce qui permet d'obtenir une prédiction des marées à très long terme, tant en horaire d'ailleurs qu'en amplitude de marée.
Oui, donc c'est pour ça que effectivement c'est une source intermittente, mais on maîtrise parfaitement le moment où on peut avoir l'énergie disponible. Très intéressant en fait, et nous pouvons maintenant expliquer les principes de fonctionnement d'une usine marémotrice.
Oui, tout à fait. On va bloquer en fait un bras de mer ou un estuaire, en général avec des zones de forte marée, on préfère un fort marnage, qui est équipé de turbines, en fait, actionnées par le flux d'eau de mer entre les deux bassins situés à des niveaux différents en fonction des marées.
Bah ouais.
Alors, les conditions naturelles les plus favorables à la plantation de ces marées moteurs sont un marnage, comme tu l'as dit, important, supérieur à 5 mètres. Plus c'est important, mieux c'est. Donc, idéalement, 10 à 15 mètres. Une profondeur de 10 à 25 mètres sous les basses mers. Un substrat rocheux ou sableux, graveleux, pour fixer les fondations de l'infrastructure hydraulique. Mmh. Alors, on peut distinguer deux grands types d'infrastructures marémotrices, le simple bassin et le double bassin.
Oui, Marc, voyons comment cela fonctionne en gardant la référence de la centrale que nous avons en France.
Ben, pour le cas du simple bassin, ça consiste à barrer un bras de mer par un ouvrage capable de retenir un important volume d'eau. Le barrage délimitant le bassin est percé d'ouvertures et certains sont dotés de vannes munies de turbines. Alors, par exemple, la centrale de la Rance dont tu as parlé est composée de 24 travées contenant autant de turbines et d'un barrage mobile constitué de 6 vannes.
Oui, donc le barrage est effectivement essentiel pour créer de la hauteur d'eau nécessaire à faire tourner les turbines. Et je crois qu'il est possible d'utiliser trois techniques de production d'énergie électrique.
Oui, Paolo, nous avons le simple effet de vidage du bassin, c'est-à-dire que le bassin de retenue s'est vide lorsque le niveau de la mer est descendu suffisamment bas pour avoir un flux, une hauteur d'eau vers la mer et faire fonctionner les turbo-alternateurs.
Ouais.
Il y a aussi le simple effet du remplissage, à l'inverse. On isole le bassin de retenue à marée basse afin d'obtenir une différence de hauteur au fur et à mesure de la marée montante, cette fois-ci.
Ouais.
Lorsque la marée est haute, on ouvre les vannes et l'eau pénètre en force dans le bassin de retenue par les vannes qui font, où on a mis des turbines qui tournent.
Ouais.
Puis il y a en plus, si on veut, le double effet. On fait tourner les turbines à la fois lors du remplissage et lors du vidage,
ouais.
Ce qui offre une plage de production plus longue, plus importante. C'est l'exemple d'ailleurs du barrage de la Rance, de l'usine marée motrice de la Rance.
Ouais.
Alors, des pompages complémentaires permettent d'optimiser les différences de niveau tout en préservant le bilan énergétique.
Ah ouais, Marc. Bon, on fera une petite pause musicale, Marc, à ces stades. Marc, voilà. Donc, ces centrales donc, ont une durée d'exploitation assez importante, qui peut dépasser les 100 ans. Et sur un site donné, cette énergie peut en outre fournir une production massive avec une bonne prédictibilité de la fourniture d'énergie électrique. À un coût relativement faible en phase d'exploitation, proche de celui de l'énergie hydroélectrique en montagne. Et que se passe-t-il ailleurs qu'en France?
Ben, y a pas grand-chose aujourd'hui, au moins. Hein, c'est des réalisations modestes. Qui ont été lancés en Russie, le barrage de Kislyaguba,
ouais.
D'une puissance de 2 mégawatts,
ouais.
Mis en service en 1968, il y a un moment aussi.
Ouais.
En Chine aussi, on a un barrage,
ouais.
Marée motrice, puissance de 3 mégawatts en 1980, ou au Canada, ça s'appelle Annapolis Royal, d'une puissance un peu plus forte, là, de 20 mégawatts en 1985.
Ouais.
On a, depuis 2000, seulement deux centrales marées motrices qui ont été mises en service, en Corée du Sud et au Royaume-Uni.
Mmh.
Alors par contre, il y a un très vaste projet de très grande envergure étudié sur l'estuaire de la Severn au Royaume-Uni, qui prévoyait une production de 12 900 gigawattheures par an, soit 5% de la production britannique.
Ah oui, énorme.
Il a été finalement abandonné dans un contexte de rigueur budgétaire. C'était des investissements de près de 25 milliards d'euros.
Ouais.
Mais bon, le Royaume-Uni le garde toujours dans la tête et voudrait lancer un nouveau projet.
Ouais.
Donc, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, il y a aussi des projets, sont les principaux pays qui voudraient développer significativement l'énergie marée motrice.
Ouais. Oui, Marc, je suis étonné, là, j'y pense maintenant, et quand on dit 24 milliards d'euros pour faire ces projets britanniques dans le pétrole, des projets qui offshore notamment, qui coûtent 20 milliards de dollars, existent tout à fait. Donc, c'est pas exceptionnel, quoi. Voilà.
Ouais, le PR français, c'est 25 milliards aussi.
Oui, oui. Ouais, en première approche, Marc, donc il m'apparaît que ces systèmes de centrales marées motrices n'a pas vraiment d'inconvénients, sauf probablement peut-être un impact environnemental.
Oui, on peut être surpris un peu de ce faible développement des usines marées motrices, tu as raison. Alors les impacts environnementaux potentiels, il y en a, hein. Donc, c'est une perturbation de l'écosystème pendant la phase de travaux, donc ça dure pas très longtemps non plus. Et puis, il y a surtout une perturbation sur la sédimentation des rivières pendant l'exploitation.
Ouais.
Alors, c'est souvent jugé comme rédhibitoire pour généraliser des systèmes marémoteurs
Ouais.
sur les côtes à fort marnage. C'est peut-être la raison principale pour laquelle peu de projets ont vu le jour depuis
Ouais.
une dizaine d'années. Alors qu'il s'agit d'une technologie, tu l'as rappelé, complètement mature. Alors, dans le cadre d'une approche de gestion intégrée des zones côtières, cette technologie pourrait pourtant être envisagée pour certains sites appropriés au terme d'une concertation et d'une évaluation des impacts.
Ouais.
Voilà.
Ouais. En effet, Marc, cette source d'énergie marémotrice dans le monde reste très peu exploitée à ce jour, malgré son potentiel non négligeable, estimé à 300 TWh par an, soit 1,5 à 2% de la production électrique mondiale annuelle. Et qu'en penses-tu des perspectives pour cette source?
Comme je te disais, je pense que c'est une source très intéressante, mais le problème, c'est qu'elle reste limitée quand même à quelques sites côtiers, hein, qui peuvent présenter des caractéristiques techniques favorables que tu as rappelées,
Ouais.
tout en satisfaisant aux problématiques environnementales et d'acceptabilité sociale. C'est souvent des zones où il y a beaucoup de population. Alors, afin de s'affranchir de ces contingences littorales, on pourrait développer à moyen terme des systèmes en haute mer, qui permettrait de reconstituer un réservoir marémoteur plus loin des côtes, donc en hauteur, un peu par rapport à la mer, des sortes de lagons artificiels, bon, à condition qu'ensuite le coût de transfert de l'énergie à la côte
Ouais.
reste acceptable.
Pour terminer notre revue des sources hydrauliques, nous allons vous proposer une autre source qui sont les hydroliennes, qui permettent de transformer l'énergie cinétique des courants marins en électricité. En effet, les mouvements de la mer sont une source inépuisable d'énergie, Marc. Peux-tu résumer quelles sont les formes principales de captation de ce type d'énergie?
Oui, Paolo, nous avons essentiellement trois types de sources. La transformation de l'énergie cinétique des courants marins, notamment des courants de marée, hein, que l'on rencontre près des côtes. Et le cas des hydroliennes, l'utilisation de l'énergie potentielle liée au marénage, exactement pareil. Différence de pression entre haute mer et basse mer,
Ouais.
nous venons de voir. Alors, il y a l'emploi des énergies des vagues nées à la surface de la mer. Alors, on l'appelle houlot motrice, donc pour la houle,
Ouais.
par différents dispositifs tels que des bouées ou des colonnes oscillantes, captant l'énergie par pompage puis turbinage.
Ouais. Donc les hydroliennes, Marc, sont des sortes d'éoliennes subaquatiques. Et les déplacements de l'eau par les courants marins fait tourner leurs pales. L'énergie mécanique générée est convertie en électricité par un générateur.
Oui, tout à fait. Une hydrolienne comporte une roue à aubes, ou une hélice, hein, exactement comme une éolienne, constituée de pales montées sur un arbre dont la rotation, créée par le courant marin, comme on l'a dit, hein, entraîne la génération électrique. Certaines hydroliennes sont installées sur un mât ancré dans les fonds marins. L'autre façon d'installer une hydrolienne consiste à la monter sur un bâti constitué d'un tripode posé sur le fond marin, avec une barge. L'installation est simplifiée. Mais la maintenance un peu longue nécessite la récupération complète du dispositif immergé.
Immergé, oui, évidemment. Et la comparaison avec les éoliennes est intéressante, Marc, puisque la puissance d'une hydrolienne est donc calculée de la même façon. Elle est proportionnelle à la surface, donc au carré de son diamètre, et à la masse volumique du fluide et au cube de sa vitesse. Mais y a-t-il d'autres similitudes?
Ben, contrairement au vent, je dirais, là, les courants marins sont beaucoup plus prévisibles à long terme. Un courant de marée se retourne régulièrement de façon presque une sinusoïdale parfaite, hein, avec des amplitudes connues, comme on a dit pour les marées, en fonction de la position de la Lune par rapport à la Terre. Au moment du retournement de ce courant, les hydroliennes, bien sûr, ne produisent plus d'énergie, jusqu'à ce que la force du courant atteigne de nouveau environ 2 à 3 nœuds, hein. Donc 5 km heure, elle passe à pleine puissance, ces hydroliennes, dès qu'on est à plus de 4 nœuds, donc à près de 7 km heure. Et les hydroliennes sont beaucoup plus petites que les éoliennes, pour une puissance à peu près identique. Le bilan global annuel exprimé en heures de fonctionnement à pleine puissance est de 4 à 5 000 heures, soit 11 à 14 heures par jour. Donc ça fait un facteur de charge qui est très bon, hein, pour de l'énergie renouvelable. On est à plus de 50%, à comparer aux 40%, 45% au grand maximum, de l'éolien offshore.
Et en plus, Marc, toujours par rapport aux éoliennes, l'impact sur l'environnement des hydroliennes est faible, car elles ont peu de signatures visuelles. Elles sont silencieuses et implantées hors des zones de pêche, en particulier des chalutages. Par contre, les coûts d'investissement et d'exploitation liés à l'environnement marin sont plus élevés, de l'ordre du double de ceux des éoliennes, à puissance égale, bien sûr. Qui sont les acteurs majeurs dans ce domaine, Marc?
Parmi les acteurs industriels en pointe dans cette filière, il y a la société britannique Murrain Current Turbines, MCT, qui est détenue en fait par Siemens, hein, les Allemands, depuis 2012. La société irlandaise Open Hydro, détenue depuis 2013 par un groupe français qui est Naval Group. Et puis Alstom Hydro, associé à la société canadienne Clean Current.
Selon la Commission européenne, le potentiel européen des énergies marines liées au courant et à la houle serait de l'ordre des 100 gigawatts installés à l'horizon de 2050. À cet horizon, la production associée pourrait avoisiner les 260 terawatts et satisfaire potentiellement le besoin électrique des 65 millions de foyers européens. Bien sûr, on peut rêver, hein. Mais la zone méditerranéenne ne peut pas fournir d'énergie hydrolienne du fait de la faiblesse des marées, sauf un endroit, le détroit de Messine. Les principales zones intérieures en Europe sont donc la Manche, la mer du Nord et la mer d'Irlande. Que pouvons-nous dire pour la France, Marc?
La France possède la deuxième ressource européenne après le Royaume-Uni, et 20% de ce potentiel national est surtout réparti en la Bretagne et le Cotentin. Comme pour l'énergie hydraulique, produite par les barrages, il s'agit d'une exploitation de niche naturelle, hein, liée à la géographie côtière. Alors en France, deux projets seront implantés au large de Cherbourg. Quatre éoliennes de 5 à 6 mégawatts de puissance cumulées par Engie et Alstom, et sept hydroliennes de 14 mégawatts, un peu plus grosses de puissance, cumulées par EDF et Naval Energie. Ces acteurs ont par ailleurs immergé en 2016 deux hydroliennes sur le parc pilote de Paimpol, près du Cap Bréhat en Bretagne.
Très bien. Bon, pour conclure, Marc, il est évident qu'il y a un potentiel pour cette source d'énergie, qui reste tout de même relativement limité à certaines zones comme le Royaume-Uni, qui est d'ailleurs le pays européen le plus avancé dans les domaines, et la France. Le Royaume-Uni est également celui qui dispose des plus importantes ressources naturelles. Pour ce qui est de l'intérêt économique des hydroliennes, l'évolution ne pourra être établie qu'après un retour d'expérience sur une période suffisante. En particulier, il faut évaluer les coûts de maintenance consécutifs à la corrosion marine, dû au sel, aux algues, aux coquillages, la rareté des sites compatibles avec les activités marines humaines, dû avec la pêche, la navigation et les contraintes environnementales. Voilà, chers auditeurs, nous vous avons fait une revue assez complète, je crois, de l'ensemble des énergies liées à l'eau. La prochaine émission sera consacrée à l'énergie d'origine nucléaire et aussi, si nous avons le temps, aux sources d'énergie qui deviendront peut-être très importante dans un futur proche comme l'hydrogène. Peut-être d'ailleurs que pour l'hydrogène, on fera une émission focalisée sur cette source d'énergie.
Ouais, ça
Voilà.
serait une bonne idée. Alors.
Voilà, chères auditrices et chers auditeurs. Comme vous le savez, si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site www.radiograndciel.fr et aussi nous vous invitons à nous écrire si vous voulez. À bientôt.
À bientôt à toutes et tous. Seine Sonnen, seine Sonnen, fliegen, so viel Zeit ab, Sonnen fliegen drin.